Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour le Grand Dialogue du jour 2 décembre 2014. Grand Dialogue portant sur la proposition de la médiation 4e rendez-vous d'Alger. Pour en débattre ce soir, je suis dans ce studio, moi Suleiman Kenza Sidibé avec Dr Etienne Sissoko, analyste, avec le représentant du Nord, Seybeti Agado. Alors, le 4e round des négociations d'Alger entre Bamako et les groupes armés maliens s'est achevé jeudi sans accord. Il faudra attendre encore un accord entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord Mali. Les deux parties n'ont en effet pas accordé leur violon lors du 4e round des pourparlers ouverts le 20 novembre dernier. Jeudi, les délégations se sont séparées sur une note d'espoir. Un projet d'accord pour la paix et la réconciliation au Mali a été remis à chacune d'elles par la médiation internationale qui constitue l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne et l'OCI, et l'Algérie et bien d'autres partenaires comme le Nigeria et le Tchad. Le dit document prévoit une administration décentralisée du Nord Mali durant une période intermédiaire allant de 18 à 24 mois par une assemblée régionale élue au suffrage universel direct et coiffée par un président, mais aussi la relecture de la loi électorale en vue d'accorder un ratio d'un député pour 30 000 habitants aux régions du Nord au lieu d'un député pour 60 000 actuellement. En outre, des combattants des groupes armés devront être intégrés dans les corps constitués de l'État, y compris au sein des forces de défense et de sécurité, et les grades harmonisés dans un délai de 6 mois. De même, les médiateurs invitent dans le projet présent accord le gouvernement à réaliser d'urgence des projets de développement à profit des populations des régions du nord du Mali. Alors, pour démarrer, nous allons écouter cette capsule pour bien nous situer le décor.
Le document insiste sur la mise en place d'une architecture institutionnelle permettant aux populations du Nord de gérer leurs propres affaires sur la base de libre administration. Le texte reconnaît aussi le droit à ces populations d'adopter la dénomination officielle de leur choix. Une meilleure représentativité du Nord est également prise en compte à travers la création d'un Sénat avec des ratios favorables au Nord. Le principe de gestion transférée est assorti toutefois de la présence d'un délégué du gouvernement pour relayer les orientations nationales. La nouvelle entité du Septentrion se voit reconnaître le droit du lever des impôts et des taxes. Au chapitre de la sécurité, la médiation propose la mise en place de cantonnements 3 mois après la signature de l'accord. Il évoque aussi la mise en place de patrouilles mixtes en lien avec l'AMUNISMA et le redéploiement de forces de défense et de sécurité commune, notamment au niveau du commandement. Le texte prévoit également la création d'un conseil de réforme du secteur de la sécurité. Enfin, le document réaffirme la nécessité de la réconciliation et de la justice avec la création d'une charte nationale pour la paix et l'unité nationale et le prolongement du mandat de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. À ce volet s'ajoute la création d'une commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur les crimes de guerre et toutes les exactions commises.
Docteur Etienne Sissoko, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste d'un centre d'études et de recherche. Alors, en quoi consiste ce centre et je crois qu'il doit être bien fondé par rapport à ces questions-là?
Alors, nous sommes de jeunes universitaires qui ont fait le constat aujourd'hui que les décisions politiques, les pouvoirs politiques sont en train de mettre en place un ensemble de politiques économiques et sociales qui ne reflètent pas les aspirations du peuple malien de façon générale et de l'Afrique en général. Donc le but de notre centre, c'est d'être une alternative. Nous sommes de la société civile et c'est d'être une alternative
et une force de proposition
pour justement accompagner et l'action gouvernementale pour accompagner tous ceux-là qui pensent aujourd'hui que des politiques économiques nouvelles devront être mises en place pour aider nos pays à amorcer un processus de développement économique et social.
Okay. Monsieur Seybeti Agado, bonsoir. Vous qui êtes de la société civile du Nord, vous venez d'écouter l'élément sonore qui vient de passer, une présentation du document également remis aux deux parties. Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans ce document-là? Quelle lecture vous en faites aujourd'hui?
Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous les auditeurs. Évidemment, la lecture qui vient d'être faite de ce document nous trouble à plus d'un égard. Nous ne pouvons pas comprendre qu'après avoir fait réagir les Maliens à l'unanimité il y a seulement 2 semaines, qu'un tel document nous revienne sous cette forme. Et je pense que je partage avec la majorité des Maliens la déception et surtout l'amertume, l'incompréhension. Les mots me manquent pour qualifier vraiment ce que je suis en train de découvrir dans ce document.
Mais le document réaffirme les principes de l'intégrité, de l'unité, de la laïcité de l'État du Mali.
Écoutez, tout ça, c'est des mots qui sont en train de nous traumatiser réellement. L'intégrité, mais c'est pas un produit qu'on achète au marché. Nous, notre intégrité, notre laïcité et tout le reste là, nous l'avons construit pendant des siècles. Ce n'est pas un truc qu'on va acheter sur le marché aujourd'hui. Ce n'est pas un truc qu'on nous donne. Ce n'est pas à des gens de nous les donner. Nous l'avons acquis, honnêtement.
D'accord. Et docteur Étienne Sissoko, alors, quelle interprétation faites-vous de ces documents-là au niveau du centre? Et qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui concrètement?
Alors, d'abord, le premier sentiment, c'est l'incompréhension. Incompréhension dans le processus qui nous a conduit à cette quatrième phase-là. Quand vous regardez l'accord de Ouaga, quand vous regardez le document, le pré-accord qui avait été signé, l'accord préliminaire, quand vous regardez les éléments d'accord qui ont fait l'objet récemment de critiques vives de la société civile et de l'ensemble du peuple malien dans leur majorité, qu'un tel document puisse être proposé aujourd'hui, ça crée l'incompréhension. L'incompréhension parce que les principes fondamentaux que défend l'État sont remis en cause. Les velléités de sécession, de partition du peuple malien, c'est ça qui revient dans ce document-là.
Allez-y.
Prenez simplement, je vous donne, quand vous demandez simplement, quand vous dites dans le document que certaines régions, un ensemble de régions peuvent se mettre ensemble et donner à ce territoire la dénomination qu'ils souhaitent. Or, aujourd'hui, il y a une dénomination qui pose problème. Et donc, c'est donner en quelque sorte la possibilité à certaines régions d'appeler cette zone qu'ils appellent Azawad, de leur conférer juridiquement, sur des bases légales, cette dénomination-là. C'est ça qui remet en cause. Et ça, c'est simplement dans la forme. Et quand vous prenez également dans le fond, il y a des réserves qui avaient été émises par la société civile. Il y a un collectif aujourd'hui qui s'appelle Mali Titla, qui a fait des réserves, qui est partagé aujourd'hui par tous les Maliens, je le pense. Il y a également les jeunes leaders du Mali qui ont fait également un mémorandum, qui l'ont proposé au gouvernement avec des réserves. Le gouvernement lui-même a fait des réserves sur le premier document. Et aujourd'hui, aucune de ces remarques n'est fondamentalement prise en compte dans ce document-là. Alors, est-ce que...
Mais il reste que les principes de l'intégrité, de l'unité, de la laïcité de l'État sont préservés.
Il vous l'a dit, ces principes-là n'ont jamais été remis en cause, en tout cas dans les papiers. Mais dans la pratique, qu'est-ce que nous voyons? C'est ça qui compte. Ce n'est pas le slogan de déclarer que la laïcité n'est pas remise en cause, l'intégrité n'est pas remise en... Qu'est-ce que vous appelez intégrité d'un pays si l'armée républicaine n'a pas la possibilité d'être sur les zones en question? C'est ça aussi l'intégrité. C'est d'avoir le pouvoir absolu sur l'ensemble des territoires que nous gouvernons. Mais actuellement, cela n'est pas le cas. Et après, n'importe quel accord que nous allons signer, cela ne sera le cas que si il y a une volonté réelle affichée de la part du Mali d'instaurer l'intégrité de son pays, l'intégrité sur l'ensemble de notre territoire.
Oui, docteur Étienne Sissoko, comment vous, en tant qu'analyste, comment vous comprenez ce document à l'aune de la loi fondamentale du Mali, qui consacre la décentralisation poussée à un certain niveau, qui voudrait dire le transfert de toutes les compétences, des ressources et tout. Est-ce qu'il y a un décalage par rapport à la loi fondamentale?
Par rapport à ce que la loi fondamentale dit, c'est consacrer la libre administration. Mais ce n'est pas aujourd'hui le cas. Dans ce document-là, ce n'est pas la libre administration. Si c'était la libre administration, ça suppose également la décentralisation. Et la décentralisation à un autre niveau. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de décentralisation. Donc, c'est vrai qu'il y a des lacunes dans cette décentralisation. C'est vrai qu'il y a des erreurs concernant, par exemple, le transfert des ressources. Mais cela n'est pas un problème...
Des compétences.
Des compétences et des ressources, cela n'est pas un problème spécifique des régions du Nord. C'est cela aussi un des principes qui doit être pris en compte. Ce que les avancées aujourd'hui dans ce document ou les remarques aujourd'hui que nous faisons dans ce document, c'est que ça ne prend en compte que les préoccupations des régions du Nord. Or, la question du développement, la question de la décentralisation, la question de la mise en valeur des projets des zones est un besoin national. Et c'est à ce titre-là que les mesures qui auraient dû sortir de ce document auraient dû être des mesures applicables à l'ensemble du territoire malien. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Vous prenez également le Sénat aujourd'hui, la création, au-delà de son caractère budgétivore. Aujourd'hui, on dit que... un ratio considérable sera consacré aux populations du Nord. Est-ce que vous savez le nombre d'habitants aujourd'hui?
Selon vous, ce n'est pas une meilleure façon de les intégrer?
Non, aujourd'hui, dans la forme actuelle, le Sénat va être une chambre où on va mettre ensemble des individus qui gênent en réalité le pays. Et ça va être un réservoir plutôt qu'un instrument pour le développement au service du peuple.
Monsieur Sebeti Akado, le Sénat, ça va être un instrument de gêne, pas de gestion efficace?
Écoutez, moi je vais vous tirer un peu en arrière. C'est pour dire que je m'insurge d'abord contre cette terminologie qui veut qu'il y a des régions du Nord et le reste du Mali. Moi, je tiens à préciser et surtout à rappeler qu'à aucun moment, les ressortissants de ces régions-là, de Kidal, de Tombouctou, de Gao, n'ont exprimé, n'est-ce pas, leur volonté ou leur désir de se retrancher en zone intégrée ou en zone de développement ou en zone réclamant ceci ou cela. À aucun moment, ça n'a été le cas. Au contraire, elles se sont exprimées dans le sens de l'unité de ce pays-là. Elles se sont exprimées dans le sens de la cohésion. Elles se sont exprimées dans le sens de rejeter la barbarie dont elles ont été.
Oui, mais vous conviendrez avec moi.
Donc histoires de Sénat, ces histoires de redécoupage, toutes ces histoires-là, nous l'avons dit en son temps, nous avons dit que ni l'État, ni la médiation, encore moins les rebelles, ne sont habilités à discuter de ces questions-là en dehors de notre territoire national.
Oui, peut-être ça va venir. Mais là où nous sommes aujourd'hui, concrètement, entre nous, est-ce que ces groupes armés aujourd'hui, ces hommes en armes aujourd'hui, dans le nord du Mali, ça ne traduit pas une certaine révolte, une certaine forme de révolte par rapport à la malgouvernance, disons par rapport à une certaine gouvernance qui a prévalu jusqu'ici, des masses de 2012 à nos jours, et par rapport aussi à un certain retard pris par rapport aux négociations. Normalement, le président Ibeka, une fois élu, 60 jours après, il devait engager les pourparlers.
Je vous en prie, sur cette question-là, nous sommes unanimement convaincus que ce problème-là a été préparé et on est en train de nous le faire porter. Il n'y a pas de problème qui puisse justifier ce qui nous est arrivé de 2012 à aujourd'hui. Il n'y a pas de problème de cette nation-là qui puisse légitimer...
Pas mal de gouvernance?
Non, mais la malgouvernance, qui ne l'a pas subie? Tout le monde l'a subie. Elle est subie à travers le monde. Est-ce que ça justifie tout ce qui est en train de se passer chez
nous?
Moi je suis du Nord.
Vous conviendrez que les gens n'ont pas les mêmes réactions.
Je suis du Nord.
Oui.
Pourquoi cette malgouvernance n'a poussé que les Touaregs et les Arabes, surtout les Touaregs, à prendre les armes? Pourquoi elle n'a pas poussé l'écrasante majorité des Sorais et des Bella et des Peuls à prendre les armes? Alors, dites-nous, répondez à cette question-là.
Non, c'est vous qui posez la question.
Répondez-nous à cette question-là. Donc nous estimons que ce problème-là n'est pas un problème soulevé par la malgouvernance. On est en face d'un complot qui a été établi par des analystes, qui a été établi par le monde entier, ce de quoi nous sommes victimes aujourd'hui.
Ouais. Et docteur Etienne Sisso, vous conviendrez s'il y a complot, c'est que les Maliens ont prêté le flanc à travers une certaine forme de gouvernance.
Alors, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas dans les trois régions citées précédemment qu'il y a ces problèmes de malgouvernance. Ce n'est pas uniquement dans ces trois régions-là. Donc, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui en termes de gouvernance sont des problèmes qui touchent à l'ensemble des régions. Pourquoi les autres régions n'ont pas pris les armes? Pourquoi aujourd'hui, c'est dans cette zone où, quand on a subitement parlé de découverte de pétrole, on a parlé de que subitement ce problème-là a jailli. Moi, je me pose des questions à ce niveau.
Non, le problème, je n'irai pas jusqu'à dire. 63, hein.
Je dirais pas qu'il y a, complot. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas complot. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, le soutien que des pays étrangers, des pays qui sont supposés être amis apportent aujourd'hui aux groupes armés, nous font poser des questions par rapport au bien fondé de ces problèmes-là. Maintenant, pour aller plus loin, toujours par rapport à cet accord-là, c'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe en faisant croire justement que ce sont les populations du Nord qui réclament cette partition-là. Ce n'est pas les populations du Nord, mais c'est plutôt des groupes individus qui ont aujourd'hui la force parce qu'ils ont osé prendre leurs armes, les armes contre le Mali.
D'accord, nous allons observer la pause, le temps d'y revenir.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Je rappelle aux auditeurs que Grand Dialogue du jour 2 décembre 2014 est consacré aux propositions de la médiation 4e rendez-vous d'Alger. Pour en débattre, je suis dans ce studio avec le professeur, le docteur Étienne Sissoko, analyste, et le représentant de la société, d'une des sociétés civiles du Nord, Sebeti Agabo. Alors, pour la deuxième partie, l'architecture institutionnelle des régions du Nord, le statut particulier de l'Azawad, la reconnaissance de l'Azawad avec l'autonomie de gestion. Cette donne est-elle applicable sur le plan politique, la réconciliation nationale, la préservation de l'unité nationale et la sécurité? Est-ce que c'est compatible avec ces principes sacro-saints de laïcité, d'unité nationale, de réconciliation nationale? Monsieur Sebeti Agado.
Sur cette question de l'Azawad, je pense que les Maliens aussi se sont prononcés largement. Et il est regrettable et inadmissible que l'on continue de permettre à certains Maliens, parce qu'ils ont les armes braquées sur les autres Maliens, d'appeler les régions de Kidal, de Gao, de Tombouctou, Azawad. C'est inadmissible. C'est comme si il est permis à chaque Malien de donner le nom de son choix à n'importe quelle partie du territoire. Et c'est là même dans un document officiel. Et c'est ça que nous récusons. Comment dans un document officiel, on peut permettre à des gens de dire que telle région s'appelle ça? Et la médiation laisse faire. On ne comprend pas cela. Il faut rappeler que l'écrasante majorité des trois régions du Nord ne se reconnaît pas dans cette appellation. Et qu'il serait plus équitable pour le médiateur d'adopter la terminologie officielle acceptée par tous, c'est-à-dire les régions de Kidal, de Gao et de Tombouctou. Ça ne pose pas problème.
Docteur Étienne Sissoko, vous pensez la même chose?
Exactement, parce qu'aujourd'hui, au-delà de la dénomination, c'est un flanc, c'est une boîte de Pandore que nous allons ouvrir. Et aujourd'hui, si on admet que, parce que ces gens ont pris les armes contre le Mali, qu'ils ont la possibilité de donner le nom qu'ils souhaitent. Et si d'autres groupes armés surgissent dans d'autres régions, ils donneront également le nom. Et le Mali que nous chérissons tant va disparaître parce que des gens diront que le nom Mali même ne doit plus exister. Donc c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Donc pour éviter cela, je crois que les populations ont déjà compris. Et quel que soit, de toute façon, moi je me dis, quel que soit l'accord qui va sortir de cela, que ça soit concernant la dénomination, concernant la mise en application de la libre administration ou autre chose, que c'est d'abord ce peuple, ce même peuple qui va être consulté pour donner son avis. Et donc cela ne peut pas se faire dans ces conditions-là. Il faut que nous tenions un langage de vérité avec nos partenaires, avec ceux-là qui sont entre guillemets en train de nous aider. Parce que on ne peut plus continuer à admettre que parce que simplement nous sommes en position de faiblesse, on ne cesse de nous rappeler cela, que nous devons accepter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est ce langage-là qu'il faut tenir avec la médiation. Et je crois que les médiateurs l'ont compris parce qu'ils ont refusé d'aller loin dans cette dernière phase. Parce que les réserves émises par le peuple malien n'ont pas été prises en compte, encore une fois.
Ouais, mais comment vous comprenez quand les cadres tamachèques parlent de fédéralisme et les responsables de Ganakoy parlent d'une nouvelle gestion des régions du Nord? Est-ce que ce n'est pas la même chose qu'ils disent?
Concrètement,
les cadres tamachèques sont les seuls à revendiquer?
Concrètement, qu'est-ce que moi j'appelle partition du pays, au-delà des termes fédéralisme, régionalisation, au-delà de tous ces concepts-là? Quand vous transférez à une collectivité, qu'elle soit locale ou n'importe quelle collectivité, quand vous transférez le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, alors vous appelez ça un État. Et le document propose justement le transfert de l'ensemble de ces pouvoirs-là aux régions. Et pire encore, ce transfert-là n'est pas appliqué dans les autres régions. C'est cela qui constitue un problème. Donc aujourd'hui, ils peuvent s'amuser avec les terminologies, mais ce qui est une réalité, c'est qu'il ne sera question ni de transfert du pouvoir législatif dans n'importe quelle région que ce soit, ni du pouvoir judiciaire, ni du pouvoir exécutif. Limite, ce qui peut être une bonne chose, c'est par exemple l'Assemblée régionale qui a été proposée, qui est d'ailleurs prévu par le système actuel.
Par la Constitution.
Donc il faut simplement que nous ayons la volonté réelle d'appliquer les mesures actuelles de la décentralisation en prenant soin de corriger les différentes lacunes et de voir dans quelle mesure on peut amorcer un processus de développement tenant compte des préoccupations de l'ensemble des populations.
Okay. Monsieur Sibiété Agagado, vous voyez des Mali qui se profilent?
Non, je suis optimiste, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Ceux qui rêvent vont continuer de rêver, ils agitent le spectre de la force ne résoudra pas ce problème, la force ne divisera pas le Mali. Je pourrais venir un peu sur le dispositif. Nous avons dit en son temps que ce processus-là est mal parti. Et de tout temps, ça a été comme ça. Depuis pratiquement les années 90, on a toujours concocté des choses et on est venu les imposer d'une certaine manière, avec subtilité, souvent aussi avec arrogance aux Maliens. Cette fois-ci, on a vu au mois d'août nos ministres revenir de l'Algérie avec une feuille de route qu'ils ont embaumée, à laquelle ils ont donné toutes les vertus, pendant que certains réagissaient, des gens comme moi, ont réagi par rapport aux questions de politique et institution. Nous avons dit de quel droit on va aller discuter de ces questions-là avec des groupes armés. Des questions de réorganisation de notre territoire. Comment un État peut se donner la légitimité d'aller les discuter avec des terroristes? Alors, à l'époque, évidemment, les gens pensaient qu'il fallait laisser passer la pilule. Ça va se passer. Dans tous les cas, les gens n'oseront pas demander en dehors de ce que l'intégrité et la laïcité, n'est-ce pas, nous confèrent comme statut. Voilà, aujourd'hui, ils sont dans le fédéralisme.
Ce ne sont plus des terroristes comme le vice, c'est des mouvements armés. Parce qu'ils sont identifiés comme tels.
Non, mais qui les a identifiés?
Ils sont en médiation avec l'État malien.
Si ils se donnent, non, on ne récuse pas la médiation. Les gens parlent avec même des criminels. Nous avons toujours dialogué avec eux. Quand bien que l'état des lieux est là, c'est des criminels, c'est des assassins, c'est des voleurs, c'est des violeurs. En tous les cas, ils ne se sont jamais démarqués de ces appellations-là. Ça continue aujourd'hui. Pour nous, les Nordistes, nous le savons. Nous avons le droit de le dire parce qu'ils sont en train de nous faire subir tout ce que je viens d'évoquer. Donc c'est dire que nous sommes encore une fois choqués de voir que l'État, les médiateurs, tout ce qui s'agit autour de ce problème-là, continue de considérer l'État malien comme une partie moins valeureuse, moins, comment dirais-je, qui pèse moins qu'un groupe d'individus qui, encore une fois, n'ont aucune légitimité, aucune légalité. Même si l'international s'agite autour d'eux, nous ne sommes pas des naïfs. Nous savons ce qui se passe derrière tout ça.
D'accord.
Peut-être que ce n'est pas le lieu de crever, n'est-ce pas, l'abcès, mais tout le monde sait que ce truc-là, c'est préparé et on est en train de nous faire avaler ça. Et en historien, je suis convaincu que les Maliens vont surmonter cette étape-là. Ça va marcher.
D'accord. Docteur Etienne Sissoko.
Moi, je voulais juste faire remarquer qu'aujourd'hui, la superficie aujourd'hui des trois régions du Nord est de 800 et quelques mille kilomètres carrés et que la population est de 1 293 000. Donc, quand vous prenez ce ratio-là et que vous le comparez aux 14-15 millions du Mali, et voir que aujourd'hui, ce sont ces prérogatives-là que nous essayons de conférer aux régions. Je dis en termes d'équité, c'est quelque chose qui va très mal passer, à mon avis. Mais ce qui a lieu de signaler, c'est que le nouveau découpage qui est proposé dans ce document-là n'est en réalité n'a pas sa raison d'être, parce que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour permettre à la décentralisation, encore une fois de plus, de permettre aux régions d'amorcer un processus de développement.
Décentralisation poussée.
Appelez-le comme vous voulez, mais aujourd'hui, le principe de la décentralisation, je ne sais même pas ce que ça veut dire décentralisation poussée, parce que c'est simplement la décentralisation. Rendre effectif, comme le disait quelqu'un, rendre effectif la décentralisation, c'est cela la décentralisation. Ce n'est pas simplement voter des lois, mais il faut les appliquer. Aujourd'hui, c'est l'application de la libre administration
La décentralisation suppose l'exercice du pouvoir local.
Oui,
la gouvernance locale.
Oui, mais quand vous dites dans le document, quand ils disent dans le document que 30% des revenus au niveau national seront transférés aux collectivités avec une préférence aux régions du Nord, je dis que là c'est plus la décentralisation.
Non, parce qu'il y a
quand vous dites qu'il faut changer,
est-ce qu'il faut pas voir là un acte de solidarité?
Un acte de solidarité, quelle est la région aujourd'hui qui est autosuffisante? Aucune de nos régions.
L'assistance pour les régions du Nord, c'est une donne depuis la Première République.
À mon avis, cette solidarité-là ne doit pas forcément se passer par l'imposition dans une médiation. Cela ne doit pas se faire comme ça. Ce qui doit être fait, s'il s'agit de solidarité, effectivement...
Une question à dire entre Maliens.
Voilà, c'est de voir dans quelle mesure on peut repartir équitablement les ressources générées par les productions que nous faisons au niveau national. C'est cela la question. Et non favoriser parce que certains individus ont décidé nécessaire de prendre les armes contre le pays. Donc, concernant également, pour terminer, la question de la justice aujourd'hui. Mon collègue l'a rappelé, les méthodes de ces bandits armés n'ont rien de différent des méthodes des terroristes. Aujourd'hui, cela est un fait. La seule légitimité qui leur donne aujourd'hui le pouvoir le droit d'être sur la même table que nous, c'est parce que des pays comme la France, des pays comme des zones comme l'Union européenne constituent aujourd'hui leur soutien. C'est ça qui leur donne. Sinon, les modes opératoires sont les mêmes. Donc, cela dit, dans l'accord, il devait y avoir un chapitre consacré à la justice. À tous ces soldats qui ont été exécutés, à toutes ces populations qui ont été meurtries, qui ont été violées, qui ont été pillées, rien n'est dit dans le document concernant ça. On se contente simplement de parler de mise en place de commissions qui n'en finissent pas. Et aujourd'hui, concrètement, comment on fait pour que justice-là se mette en place?
Le document n'en parle pas. Il y a un bureau du tribunal pénal international à Bamako pour ça, dans ce cadre-là.
Il y a également une commission qui doit avoir au Mali qui se charge de la décentralisation, notamment le ministère de la décentralisation. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de décentralisation au Nord, en Algérie? C'est parce qu'il y a problème. Donc quand il y a problème, si on décide d'en parler, qu'on aborde toutes les questions.
D'accord, on va observer la pause, le temps d'y revenir.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Je rappelle aux auditeurs que Grand Dialogue du jeu est consacré aux propositions de la médiation 4e rendez-vous d'Alger. Pour en débattre, je suis avec Dr Etienne Sissoko, analyste et professeur d'université, et Sebeti Akado de la Société Civile du Nord. Alors, concrètement, dans le document, il est proposé également au gouvernement de prendre en toute urgence des mesures de développement pour les régions du Nord. Alors, M. Sebeti Akado, comment vous voyez, quels sont aujourd'hui ou quels peuvent être les domaines prioritaires de développement au Nord aujourd'hui?
Les demandes de développement.
Les domaines prioritaires.
Les domaines prioritaires. Je pense que les nombreux forums, les nombreux ateliers, tout ce que les Maliens ont dit depuis toujours, n'est-ce pas, concernant le réseau routier qui est inexistant, n'est-ce pas, les projets structurants qui, malheureusement, chaque fois qu'ils sont entamés, sont détruits par ces mêmes barbares. Tout est priorité à travers tout le pays. Nous sommes dans un pays, il faut pas l'oublier, nous sommes parmi les derniers pays, n'est-ce pas, en termes d'indice de développement. Il ne faut pas qu'on nous dise que dans un document que le Nord a pris un très grand retard par rapport au reste du pays. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que Bamako qui vivote dans ce pays-là. Tout le reste est à faire. Donc, je pense que tout est priorité et que les priorités doivent être surtout dégagées à l'interne. Nous, les Maliens, et particulièrement nous, les Nordistes, nous sommes suffisamment conscients, n'est-ce pas, de nécessités de développement. Nous sommes suffisamment conscients de ce qu'il nous faut pour nous développer et nous récusons encore une fois toute violence, tout forcing, n'est-ce pas, qui en réalité n'est destiné qu'à donner satisfaction à une minorité par rapport à des majorités. Nous savons que tous ceux qui sont en train de s'agiter autour de cet accord-là ne sont pas en train de le vouloir pour donner entière satisfaction à l'ensemble des populations du Mali, encore moins aux majorités, n'est-ce pas, des populations du Nord. C'est un groupe d'individus, encore une fois, nous n'allons jamais perdre de vue cet aspect-là. Que tout ce qui est en train d'être cherché par la médiation, tout comme par l'international, ne l'est que pour la communauté Touareg et les Arabes, dans une moindre mesure. Et ça, encore une fois, nous sommes conscients de cela et nous ne les laisserons pas faire. S'ils veulent créer un État pour les Touaregs, qu'ils le disent, qu'ils posent le problème autrement. N'est-ce pas? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de créer un État pour les Touaregs. Nous ne les suivrons pas, n'est-ce pas? Ils ne vont pas faire de nous un État où les populations sédentaires seront vassalisées par les Touaregs, on ne l'acceptera pas.
Docteur Etienne Sissé, vous avez cette lecture. Et concrètement, est-ce qu'on n'a pas tout fait pour le Nord qui dit que cette fois-ci, ça va marcher?
Exactement. Je me suis toujours posé cette question, à savoir, et même si on arrivait à un accord, c'est la quatrième fois que nous allons signer un accord. Est-ce que signer un accord va régler les problèmes auxquels les Maliens de façon générale et les populations du Nord de façon particulière sont confrontés? C'est ça la question principale. Mais aujourd'hui, au regard du nombre d'investissements réalisés dans les régions du Nord et sur l'ensemble du Mali, et voir que l'impact socio-économique de ces investissements-là a du mal à se faire ressentir, cela pose la question de la gouvernance. C'est pourquoi je suis convaincu que on peut signer n'importe quel accord si on ne règle pas de façon définitive la question de la gouvernance, nous n'irons nulle part. Et au-delà de la question de la gouvernance, il y a également cette question de l'éducation qui me tient très à cœur. Parce que quel que soit ce que nous essayons de faire, si nous continuons dans avec cette société-là qui a perdu totalement son orientation, qui a perdu toutes ses valeurs, toutes ses repères, je me dis que nous n'irons nulle part. Et donc, à côté de cela, il est vrai que les investissements économiques, les investissements productifs doivent être progressivement mis en place, mais cela doit se faire sur le long terme, pas de façon immédiate. Et toutes les mesures que nous devons prendre, nous devons nous mettre dans la posture que ces mesures-là doivent être élargies à l'ensemble des régions. Parce que, encore une fois de plus, la pauvreté n'est pas une question du Nord. La famine n'est pas une question du Nord. L'insécurité, c'est pas une question du Nord. Le développement n'est pas une question du Nord. C'est un problème malien. Donc si on doit trouver des solutions, c'est des solutions au niveau global et non des solutions individuelles sous le feu des armes.
Et concrètement, comment vous voyez le développement aujourd'hui, si vous voyez au Nord, faut-il sédentariser davantage la population et faire face aux problèmes d'infrastructures scolaires, routières et sanitaires? Comment vous voyez?
Je crois que la priorité d'abord c'est de permettre ce retour à cette cohésion sociale-là qui nous avait caractérisés. Parce que toutes les mesures que nous allons prendre si la cohésion sociale, si le tissu social n'est pas recours. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de la question de la justice dans le document qui est ignoré. Parce que c'est cela, c'est à cette condition-là que les décisions que nous allons prendre vont trouver des oreilles attentives auprès des populations. Tant que ces populations seront dans une situation de frustration, on n'ira nulle part. Donc la priorité d'abord, c'est au niveau de la sécurité. Il faut trouver définitivement un problème à la sécurité. Et visiblement, les groupes armés n'ont pas conscience que aujourd'hui, retarder les négociations, c'est permettre à l'insécurité de s'installer et de façon pérenne dans le Nord. Et ouais. cela ne conforte nullement le Mali. Cela ne conforte nullement les populations pour lesquelles ils disent aujourd'hui se battre. Donc c'est pourquoi il y a urgence que nous allions à un accord et que ces accords-là, à l'issue de ces accords, que nous unissions nos forces pour trouver une solution définitive à la question de la sécurité. Et ensuite, les autres types de développement pourront venir.
Oui, et Monsieur Sebeti Agadou, comment vous voyez aujourd'hui le développement du Nord? Faut-il, comme j'ai posé la question au docteur Sissoko, Etienne Sissoko, faut-il sédentariser davantage les populations pour faire face aux problèmes d'infrastructures scolaires, sanitaires et routières? Par exemple, la Première République avait institué l'école nomade qui a permis à beaucoup de cadres Touareg, Tamasheq d'aller à l'école et bon nombre d'entre eux sont dans la rébellion aujourd'hui.
Le problème du Nord n'est pas un problème de manque de sédentarisation. Le Nord est vieux comme tous les continents de ce monde-là, n'est-ce pas? Le Nord a ses villes, ses villages et ses fractions nomades. Le nomadisme ne prendra jamais fin dans le Nord. Donc ce n'est pas un problème de sédentarisation. C'est un problème d'insécurité. Et d'insécurité, je ne dirais même pas cyclique, c'est une insécurité permanente. Nous qui sommes dans le Nord, nous savons qu'il y a des individus. Il y a des individus, et de plus en plus nombreux, qui pensent qu'ils peuvent... Ils peuvent s'éterniser dans le banditisme. Pour trouver de la richesse, il faut une Kalachnikov et hop, on y va. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, comme Étienne l'a si bien dit, le problème du développement du Nord passe par la prise en compte des questions sécuritaires. Ceux qui sont venus nous aider, n'est-ce pas, doivent se le dire, n'est-ce pas, doivent se le dire. Et se mettre en tête que autant ils sont en train de mettre un dispositif Barkhane, etc., etc., qu'ils sachent désarmer tous ceux qui sont en train de semer les troubles dans cette partie du territoire. Et tant qu'on ne les aura pas désarmés, il n'y aura pas de développement. Et si jamais on leur faisait ce qu'on est en train de prévoir, c'est-à-dire la prime à ceux qui ont pris les armes, d'autres vont prendre des armes aussi. Ça, c'est inévitable. Et je pense que, encore une fois, tout développement doit d'abord stabiliser, doit tenir compte, n'est-ce pas, du désarmement.
Autrement dit, vous voulez dire pas d'impunité?
Absolument pas. L'impunité, on ne peut rien construire sur l'impunité. On ne peut rien construire sur l'impunité. Il faut absolument revenir sur terre et dire qu'il y a eu des agissements hors la loi et que ces agissements-là doivent être traités comme tels. Quitte aux Maliens, n'est-ce pas, quitte aux Maliens de pardonner ou de trouver des mécanismes, n'est-ce pas, pour que ces agissements-là soient inscrits comme des agissements anormaux. C'est pour dire seulement que, pour revenir à la question de développement, le développement, encore une fois, il y a des agissements qui s'opposent au développement. Dieu seul sait. Les Maliens savent, les investisseurs savent combien ils ont investi dans ce Nord-là. Et toutes les fois que ce développement-là commence, il y a des gens qui viennent casser. Et ces casseurs-là, je le dis, je le répète, leur souci n'est pas le développement de l'ensemble du Mali, encore moins de l'ensemble des régions du Nord. Leur souci, c'est tout simplement de vivre toujours dans cette façon de faire, c'est-à-dire de violenter les populations et peut-être de rêver encore une fois de cette histoire d'État de l'Azawad. Ils ne le perdront jamais de vue, cette possibilité de créer cet État-là par la force.
Docteur Etienne Sissoko, au nom de la paix et de la réconciliation nationale, faut-il se pardonner, oublier tout?
Moi, je dis d'abord qu'il faut demander aux populations elles-mêmes ce qu'elles souhaitent en termes de développement, en termes de propositions concrètes. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire se fait sans ces populations-là. Pourtant, chacune des parties est en train de dire qu'elle se bat pour ces mêmes populations. Donc je dis encore une fois de plus, l'une des solutions peut être de demander l'avis de ces populations-là pour que la légitimité qu'ils se sont auto-donnée avec les armes, pour que le monde entier sache en réalité que derrière ces armes-là, il n'y a aucune légitimité, les populations ne les suivent pas. Et autre chose aujourd'hui qu'il faut faire, c'est mettre fin à l'impunité aujourd'hui qui est en train de régner. Et mettre fin à cette impunité suppose poursuivre l'ensemble de ces personnes-là qui se sont rendues coupables d'exactions dans ces régions pendant ces deux dernières années. Et aussi, il faudra repenser aujourd'hui, et ça c'est au niveau de nos autorités bien entendu, que aller à ces négociations-là ne suppose pas oublier de régler la question de la sécurité. Aujourd'hui, les forces armées qui sont sur le terrain souffrent. Et les personnes ou les pays qui sont venus, entre guillemets, nous aider encore une fois de plus, moi je me pose encore des questions sur ce que ces forces étrangères-là font effectivement sur le terrain. Parce que ce que nous avons l'habitude de voir, c'est les plaintes des forces armées maliennes, dire qu'ils sont en sous-effectif, ils sont en manque d'équipement, ils ne sont pas dans de bonnes conditions, etc. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes plaintes qui viennent des forces étrangères. Donc on se pose des questions. C'est des forces de la MINUSMA de façon générale. Donc on se pose également des questions pour savoir aujourd'hui, est-ce que la question de la sécurité peut être réglée sans pour autant prendre en compte les préoccupations des forces armées en termes d'équipement, en termes de renseignement. Le Mali doit se préparer à la guerre. Parce qu'aujourd'hui, tous les signaux montrent que les groupes armés sont dans de très mauvaises voies. Et que l'ultime façon d'en découvrir avec toute cette situation, c'est d'affronter l'ennemi. Et cela se fait en se préparant convenablement.
Ok. Ouais, ben Akavo, 30 secondes. Mali doit-il se préparer à la guerre ou à la paix?
Juste pour dire que la plus grande guerre que nous allons gagner, c'est la guerre de l'argumentation. Des arguments, nous en avons. Il faut que notre État soit capable de capitaliser tout ce que les Maliens ont montré, ont exprimé pendant ces trois années-là. Et s'il ne peut pas le capitaliser et en faire une arme redoutable, vraiment qu'ils nous excusent, qu'ils arrêtent de partir en Algérie, dilapider les maigres ressources que ce pays-là a et les consacrer effectivement à l'armement, n'est-ce pas, au réarmement de nos troupes. Sans cela, je ne vois pas comment nous allons...
Merci beaucoup, je crois que le gouvernement a entendu, le gouvernement le capitalisera. Ouais. Grand dialogue du jour prend fin, grand dialogue qui était consacré aux propositions de la médiation, 4e rendez-vous d'Alger. Pour en débattre, j'étais dans ce studio avec Dr Etienne Sissoko, analyste professeur d'université, et M. Sebeti Akado de la Société Civile du Nord. Et quant à moi, Suleymane Kenza Sidibé, je vous donne rendez-vous pour demain. Merci, à bientôt.
Grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.